Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
En 1850, le ministre de l'Intérieur prussien, Otto von Manteuffel, et son supérieur, le ministre-président von Brandenburg, étudient la proposition de Joseph Maria von Radowitz pour un nouveau parlement à Erfurt. Bien que Brandenburg croit que l'initiative permettrait de rétablir une certaine stabilité en Allemagne, Manteuffel, dans une lettre, écrit « Il me semble que la différence persistante entre la Prusse et l'Autriche a une cause plus profonde que les insultes mutuelles et la sensibilité aux dites insultes. Il y a, à mon avis, vraiment une scission considérable. La Prusse veut la formation organique de tout ou d'une partie des terres allemandes en un véritable ensemble. L'Autriche s'y oppose, dans la mesure où il s'agit, dans la sphère concernée, d'un ensemble susceptible de s'étendre et donc de toucher aux États austro-allemands. Voyant les tensions monter entre la Prusse et l'Autriche, les deux hommes retirent leur soutien à l'initiative. Ils craignent une guerre qui serait largement désastreuse pour la Prusse. Alors que le Landtag prussien est prêt à aller en guerre, Manteuffel, dans un discours adressé aux députés de la Chambre des représentants, déclare « Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas entrer en guerre. » La mort subite de Brandebourg en début novembre 1850 place Manteuffel à la tête du gouvernement. Il débute alors des pourparlers avec les Autrichiens, suscitant la colère au sein du gouvernement et du Landtag, mais qui permettent à la Prusse d'éviter une guerre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce troisième épisode de « Par le fer et le sang ». Je suis Benjamin Lacombe et dans cet épisode, il sera question de la période suivant directement le traité d'Olmütz en 1850. De 1850 à 1862, on assiste à un retour au statu quo d'avant mars 1848 ainsi qu'au retour de la rivalité austro-prussienne au sein de la Confédération. Le mouvement nationaliste se retrouve dans une impasse après l'échec du Parlement de Francfort. Au sein des cercles nationalistes, qu'ils soient en Prusse ou ailleurs en Allemagne, la Prusse devient de plus en plus importante pour la réalisation éventuelle de l'unification allemande. Toutefois, avant d'embarquer dans cette nouvelle trame, revenons là où je vous ai laissé lors du dernier épisode, la Convention d'Olmütz de 1850. Le 29 novembre 1850, après plusieurs mois passés sur le précipice de la guerre, l'Autriche et la Prusse signent la Convention de Olmütz. Pour rappel, en vertu de ce traité, la Prusse devait laisser les troupes fédérales intervenir en Hesse. Elle devait cesser son soutien clandestin aux rebelles allemands dans les duchés de Schleswig et de Holstein. Elle devait participer à des négociations concernant le rétablissement de la Diète de la Confédération allemande, qui avait été remplacée par le Parlement de Francfort durant la période révolutionnaire. Comme en 1815, le succès ou l'échec de la Confédération réside dans si l'Autriche et la Prusse peuvent travailler ensemble ou non. L'ambassadeur autrichien à Berlin, le comte Anton von Prokesch, n'est pas très optimiste. Il ne croit pas que l'harmonie entre les deux puissances rivales va durer. Il croit surtout au retour de leur rivalité dans la sphère allemande. Il dit, je cite, « Il ne faut pas espérer une réconciliation des intérêts des deux puissances, ni une coopération résolue contre la Révolution. De Francfort, je ne m'attends à rien d'autre qu'à une continuation du vieux jeu. » Toutefois, malgré ses ambitions en Allemagne, l'Autriche a besoin du soutien de la Prusse sur la scène internationale. Pour ce faire, l'Autriche doit donc gagner la Prusse à sa cause, notamment lui donnant plus d'autorité dans les affaires allemandes. Ainsi, de façon plutôt paradoxale, l'Autriche doit concevoir des politiques compatibles avec le fait que la Prusse était à la fois sa rivale la plus dangereuse et son alliée la plus importante. En Prusse, les libéraux et les conservateurs sont divisés à savoir si l'Autriche était une rivale ou une alliée. Les libéraux souhaitent que la Prusse étende son influence et sa puissance aux dépens de l'Autriche. Les conservateurs, quant à eux, croient qu'un rapprochement avec l'Autriche est le meilleur moyen de se prémunir contre tout mouvement révolutionnaire. Ils souhaitent également recréer la Sainte Alliance entre l'Autriche, la Prusse et la Russie pour garantir la stabilité domestique et internationale. C'est ce point de vue, au lendemain d'Olmütz, qui triomphe. Le 5 décembre 1848, le roi Frédéric Guillaume IV prorogue l'Assemblée nationale prussienne et fait adopter unilatéralement des amendements à la Constitution adoptée par l'Assemblée. L'un des plus importants est celui apporté au système de scrutin. En effet, le suffrage universel mâle est remplacé par le système des trois classes. Dans ce système, les électeurs sont divisés en trois classes, dépendamment du montant d'impôts payés. Ainsi, les hommes qui payaient le plus d'impôts, les riches, étaient surreprésentés par rapport au reste de la population prussienne. Un nouveau parlement est formé, le Landtag, qui est divisé en deux chambres. La Chambre des représentants, l'équivalent de la Chambre des communes au Canada, et la Chambre des seigneurs, ou la Chambre haute, l'équivalent du Sénat canadien ou bien de la Chambre des Lords en Grande-Bretagne. La Constitution sera amendée une dernière fois en décembre 1850, donnant ainsi la Constitution de 1850, qui perdurera jusqu'à son remplacement en 1919. Si la Constitution de 1850 est beaucoup plus conservatrice que celle de 1848, elle garde tout de même plusieurs aspects assez libéraux. Elle accorde l'égalité, en théorie, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté d'assemblée et d'association, pour en nommer que quelques-uns. Le pouvoir exécutif demeure entre les mains du roi. L'article 45, je cite, « Le pouvoir exécutif appartient au roi seul. Il nomme et il destitue les ministres. Il ordonne la promulgation des lois et émet les ordonnances nécessaires à leur exécution. Le Landtag ne nomme donc pas le Staatsministerium, le ministère d'État, qui est essentiellement un cabinet ministériel. Les articles 51 et 52 lui donnent le pouvoir de convoquer, de dissoudre ou d'ajourner le Landtag. Les deux chambres du Landtag et le roi peuvent proposer des projets de loi, qui doivent recevoir non seulement l'accord du roi, mais également des deux chambres. Bref, on semble avoir enfin adopté une monarchie constitutionnelle. En 1851, Frédéric Guillaume IV nomme un nouveau représentant prussien à la Diète de la Confédération, un certain Otto von Bismarck. Un conservateur opposé aux idées nationalistes et libérales de la Révolution de 1848, ainsi qu'un ardent partisan d'un rapprochement avec l'Autriche, Bismarck avait pour mission de rétablir de bonnes relations entre l'Autriche et la Prusse. Toutefois, son attitude pro-autrichienne se met à changer. En effet, à son arrivée à la Diète à Francfort, Bismarck rencontre rapidement l'animosité et le mépris des représentants autrichiens qui se souviennent encore de la tentative prussienne de former un État allemand en 1849-1850. Il se plaint également de la primauté autrichienne dans les affaires fédérales, ainsi que du statut servile de la Prusse dans les affaires allemandes par rapport à l'Autriche. Il se rend compte rapidement que la situation actuelle dans les affaires allemandes est intenable et qu'une confrontation entre l'Autriche et la Prusse était donc inévitable. Dans une série de lettres adressées au général Leopold von Gerlach, l'adjudant du roi, Bismarck explique son point de vue. Nous cherchons chacun à respirer le même air. L'un d'entre nous doit affaiblir l'autre ou être affaibli à son tour. Et jusque-là, nous devons être ennemis, un fait que l'on ne peut ignorer, aussi indésirable qu'il puisse être. Ainsi, pendant la majeure partie des années 1850, il s'efforce de confronter les politiques autrichiennes au sein de la Diète. Il va donc à l'encontre de sa mission et des politiques étrangères prussiennes. Pourquoi? Tout d'abord, il y a deux éléments qui vont affecter la diplomatie prussienne après 1850. Premièrement, il y a la « libéralisation » entre guillemets de la politique prussienne avec la nouvelle constitution de 1850 et le nouveau Landtag que j'ai mentionné plus tôt. Deuxièmement, on assiste à une importante croissance économique caractérisée par la multiplication des industries, le développement des villes par l'exode rural et la naissance et la prise de conscience de la classe moyenne, et qui augmente alors les revenus de l'État grâce aux impôts, en plus des revenus qui proviennent du Zollverein, récoltés auprès de cette dite classe qui, par le fait même, devient une classe d'affaires avec laquelle le gouvernement prussien souhaite coopérer. Comment ces deux éléments ont-ils affecté la diplomatie prussienne? Tout d'abord, il faut savoir que le mouvement nationaliste allemand, après l'écroulement du Parlement de Francfort, survit. Il trouve de plus en plus d'adhérents au sein de cette nouvelle classe moyenne et les hommes qui la constituent adhèrent à la mouvance Kleindeutsch pro-prussienne du mouvement. Dans les années 1850, cette mouvance subit un important changement de paradigme. En effet, pour plusieurs nationalistes, la Prusse semble s'engler dans une direction libérale plus ou moins démocratique, représentée par le système des trois classes, qui, pour eux, est une reconnaissance d'une, et je cite, d'une société ouverte où l'argent, qui peut être acquis, avait une égalité avec la naissance. Un nombre grandissant de nationalistes, en Prusse et ailleurs en Allemagne, croient que la Prusse deviendrait non seulement la cause, mais également le moteur de l'unification, mais qu'elle ne pourrait pas conserver ses aspects bureaucratiques et autoritaires à l'échelle de l'Allemagne, les autres États allemands ne partageant pas nécessairement ces mêmes aspects. Ainsi, pour diriger ce nouvel État-nation moderne, la Prusse, selon eux, devra donc se tourner vers cette nouvelle classe naissante libérale, qui sait comment diriger un tel État-nation. De son côté, le gouvernement prussien adopte une attitude plus prudente vis-à-vis de la question allemande et de sa diplomatie. Son approche tourne autour de trois pôles. Premièrement, la Prusse doit supporter les politiques européennes et allemandes de l'Autriche, car la stabilité internationale servirait mieux ses intérêts. Cela est principalement dû au fait que la Prusse était encore et de loin, la plus faible des grandes puissances et une politique de conciliation avec l'Autriche lui offrirait donc de meilleures opportunités d'étendre son influence dans le nord de l'Allemagne. Deuxièmement, les diplomates prussiens mettaient l'accent sur le statut allemand de la Prusse, en se servant du Zollverein comme un pont d'or diplomatique avec les autres États de la Confédération, tout en présentant la Prusse comme la meilleure défenseur des intérêts allemands que l'Autriche ne considérait que comme étant secondaire à ses propres intérêts. Puis, troisièmement, la meilleure façon pour la Prusse de maintenir son statut de grande puissance est de se présenter aux autres grandes puissances comme une actrice autonome sur la scène européenne et allemande. La politique étrangère qui en découle fut souvent caractérisée comme étant indécisive, reflétant soit les craintes du roi ou soit les différents intérêts au sein de la cour. Cette politique s'est illustrée notamment pendant la guerre de Crimée de 1854, où l'Autriche s'est retrouvée dans une impasse diplomatique. La Russie, qui avait aidé les Autrichiens à écraser la Révolution hongroise, avait demandé à l'Autriche de soit se joindre à elle dans son conflit contre la France, la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, ou soit de rester neutre. Pour faire simple, l'Autriche craint l'expansion de l'influence russe dans les Balkans, où l'Autriche possède des territoires, et elle craint également de se mettre à dos la France et la Grande-Bretagne si elle demeure neutre. Si elle décide de se retourner contre la Russie, il lui faut alors le soutien de la Confédération, et particulièrement de la Prusse. Les diplomates prussiens sont réticents toutefois, car on ne souhaite non seulement pas s'aliéner la Russie, mais on ne souhaite également pas paraître auprès de la France et de la Grande-Bretagne comme étant subordonnés à l'Autriche. En avril 1854, la Prusse accepte de signer un traité défensif avec l'Autriche, à condition que celle-ci demande l'accord de la Prusse avant d'agir à l'Est. L'Autriche envoie un ultimatum à la Russie, l'assommant de retirer ses troupes des principautés de Valachie et de Moldavie, aujourd'hui la Roumanie et la Moldavie, qu'elle avait envahies l'année précédente. L'Autriche tenta d'utiliser le traité comme levier pour forcer la Russie à quitter les principautés. Mais les Prussiens réussirent à manœuvrer dans les coulisses pour diriger la colère russe vers les Autrichiens. Les Russes vont finir par se retirer, et l'Autriche se joint à l'alliance franco-britannique contre la Russie, bien qu'elle ait perdu l'envie d'intervenir après le départ des troupes russes de Valachie et de Moldavie. Elle tente de faire mobiliser la Confédération, ce que les États allemands, avec le soutien de la Prusse, refusent, citant le fait que le conflit n'est pas dans leurs intérêts. Ce refus explique pourquoi l'Autriche décide finalement de ne pas participer à la guerre, en contravention avec son alliance avec la France et la Grande-Bretagne, ce qui affaiblit alors sa position en Europe et l'isole diplomatiquement. La Prusse, de son côté, sort gagnante de la crise, avec des cartes dans tous les jeux diplomatiques où l'État prussien avait des mises. L'Autriche est isolée, ne pouvant se permettre de se retourner contre son partenaire en Allemagne et la Russie, elle aussi isolée après sa défaite. Cela permet également à la Prusse de se présenter en Allemagne et sur la scène internationale, comme étant modéré et raisonnable. Tout au long des années 1850, l'armée prussienne subit d'importantes réformes. Tout d'abord, l'armée prussienne va commencer, à partir de 1851, à faire adopter en nombre plus grand le fusil à aiguille de Dreyse et elle va commencer à mettre en place des protocoles pour l'utilisation des chemins de fer prussiens par l'armée. Dans le cas des trains, leur potentiel militaire augmente grâce aux améliorations apportées aux locomotives et à la construction des wagons depuis la fin des années 1840. Les premiers protocoles partent du principe très répandu à l'époque que les chemins de fer étaient avant tout un instrument défensif permettant, je cite, de répondre à des concentrations de forces hostiles dans un secteur particulier ou de renforcer un système de forteresse menacée. On remarque rapidement, toutefois, que ce genre d'opération requiert une planification détaillée d'une portée et d'une échelle sans précédent. Dennis Showalter explique que les événements d'Olmütz avaient démontré les risques liés à la logistique d'amener, je cite, « les forces les plus importantes possibles aux plus grandes jonctions ferroviaires les plus proches d'une menace potentielle. » Selon les estimations de l'état-major général, aucune force de plus de 30 000 hommes ne pouvait être ravitaillée par une seule grande route ainsi que ses embouchures. Et la situation devient beaucoup plus compliquée lorsqu'on parle de forces beaucoup plus nombreuses. Ces facteurs font en sorte que la planification détaillée est la clé du succès dans l'emploi des chemins de fer, peu importe l'échelle. Pour ce qui est du fusil à aiguille de Dreyse, il sut démontrer son efficacité lors de la campagne du Schleswig et lors de nombreuses interventions militaires prussiennes en Bade et en Saxe pendant la période révolutionnaire. Le gouvernement ordonne son adoption à l'entièreté de l'armée en 1851. Et l'armée en sera entièrement équipée en 1859. les avancées technologiques dans le domaine des armements entre la fin des guerres napoléoniennes et les années 1850 apportent également son lot de questionnements. On essaie de savoir, surtout après la campagne de 1848-1850 contre le Danemark, comment manœuvrer sur les champs de bataille avec les nouvelles armes modernes, telles que le fusil Dreyse ou, surtout, tels que les fusils de type mini. Les règlements d'exercice pour l'infanterie prussienne, avant 1847, voient la fusillade comme une étape préparatoire à la charge à la baïonnette qui devait faire entrer l'ennemi en déroute. Toutefois, on remarque que cette approche est trop risquée si l'on considère le manque d'enthousiasme face au service militaire et le fait que l'armée prussienne soit composée majoritairement de conscrits et de réservistes. Les changements doctrinaires et tactiques nécessaires pour mieux préparer les troupes aux nouvelles réalités du champ de bataille pouvaient être difficilement mis en œuvre dans une armée composée de conscrits et de réservistes, comparativement à des armées plus professionnelles comme l'armée française et l'armée britannique. Pour plusieurs officiers, toute manœuvre sophistiquée pourrait bien s'avérer tout à fait au-delà de leurs compétences. Ainsi, les officiers prussiens croyaient que les soldats du rang, c'est-à-dire tous les soldats qui ne sont pas des sous-officiers, n'étaient pas suffisamment entraînés pour soit maintenir leur cohésion sous le feu de l'ennemi, ou soit pour tirer parti de leur nouveau fusil. La raison principalement citée était la durée de service, qui avait été réduite à 2 ans en 1847. On demande alors la restauration du service de 3 ans. Selon Dennis Showalter, l'un des arguments présentés était que le service de 2 ans ne développait pas des hommes entraînés qui savaient ce qu'ils faisaient et pourquoi, mais plutôt des hommes « drillés » qui exécutent les ordres reçus par cœur, mais sans comprendre et sans intérioriser ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement l'armée prussienne qui rencontre des difficultés à préparer ses hommes à la guerre moderne. C'est également le cas pour la majorité des armées de l'époque. Ainsi, en 1852, une première réforme est instaurée. Elle rétablit le service de 3 ans. On réorganise les corps d'armée. Les régiments de ligne sont jumelés à un régiment de la Landwehr au sein d'une brigade afin de pouvoir mieux entraîner les hommes de cette dernière. Et on crée des bataillons d'approvisionnement, les Trainbataillonen, afin d'améliorer le système désuet d'approvisionnement de l'armée. Toutefois, il n'y a pas que l'armée en tant que telle qui subira des réformes. En effet, vers la fin des années 1850, des réformes sont également apportées à l'état-major général. Pourquoi? À cette époque, les questions en lien avec la planification opérationnelle et la mobilisation des troupes étaient des compétences partagées entre le ministère de la guerre à Berlin et les différents districts militaires. Et il y avait des frictions entre ces deux groupes. La réorganisation de l'armée prussienne, en corps d'armée permanent et cantonné en des endroits fixes en 1815, eut une conséquence inattendue. La création d'une classe de soi-disant demi-dieux, selon Dennis Showalter, les commandants des districts militaires des corps d'armée. Majoritairement des généraux assez vieux, ayant de longues années de service distingués sur leur CV, ceux-ci n'avaient pas vraiment d'opportunité d'avancement. Ils étaient donc réticents à laisser leur place. À cause de leurs tâches importantes, ainsi que de l'autorité dont ils jouissaient, les ministres de la guerre essayaient de les approcher avec prudence et ils évitaient de remettre en question leurs prérogatives. La plupart étaient assez âgés et ils étaient donc fixés dans leurs habitudes, ce qui pourrait avoir des conséquences quand vient le temps de mettre en place de nouvelles doctrines ou de nouveaux plans par Berlin. Cela a également un impact sur le développement professionnel des officiers de l'état-major général. En effet, l'idée de base des réformateurs militaires à l'époque napoléonienne était de créer une sorte de symbiose entre les officiers d'état-major et les commandants. L'âge et la jeunesse, l'expérience et l'éducation, la planification et l'exécution. Or, les officiers qui étaient assignés au corps d'armée, soit plus de la moitié des officiers de l'état-major, au lieu de mettre en pratique leurs apprentissages, passent plutôt leur temps à faire de la paperasse et d'autres travaux de bureau. De leur côté, le reste des officiers de l'état-major, ceux affectés à Berlin, passaient leur temps à l'étude de l'histoire militaire et de la topographie, ainsi qu'à la participation aux exercices d'état-major et à des jeux de guerre. Cependant, le chef de l'état-major, le général Karl von Reher, avait une approche plutôt archaïque, ou plutôt désuète, concernant la formation des officiers. Par exemple, pendant les exercices sur le terrain, le général von Reher disait que chaque exercice devait refléter la personnalité et le caractère de l'officier qui coordonnait l'exercice, pour laisser une chance au « génie », entre guillemets, de faire surface. Cette croyance est un legs désuet de l'époque napoléonienne, et plusieurs officiers de haut rang croyant encore en l'idée que le génie était un trait indispensable pour un général plutôt qu'une certaine compétence. Le résultat est que les exercices manquaient de coordination, ce qui avait un impact sur les performances et les apprentissages des officiers. Le général von Reher meurt en 1857 et il est alors remplacé par le général Helmut von Moltke. Âgé de 57 ans, le général von Moltke a un CV assez impressionnant. Il reçoit sa commission d'officier dans l'armée prussienne en 1826 et il entre à l'état-major en 1833 au grade de premier lieutenant. De 1835 à 1839, il sera envoyé dans l'Empire ottoman comme conseiller militaire. Intéressé par les chemins de fer, il fait partie d'un comité chargé de planifier la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Berlin à Hambourg, et il commence déjà à étudier l'emploi des chemins de fer à des fins militaires. Alors qu'il était chef de l'état-major du 8e corps d'armée en Rhénanie, il intègre les chemins de fer rhénans dans les exercices militaires annuels en 1850. À son arrivée comme chef de l'état-major général, il met en place les premières politiques quant à l'usage des chemins de fer par l'armée. Il réorganise la seconde section de l'état-major, qui était alors chargée de planifier des opérations militaires dans le sud de l'Europe pour qu'elle prenne en charge les questions en lien avec la mobilisation, et il dote la section d'un département pour les affaires ferroviaires. Après les manœuvres d'automne 1858, durant lesquelles 16 000 hommes des 5e et 6e corps d'armée sont déplacés par train jusqu'au lieu des manœuvres, Moltke se rend compte qu'il ne fallait pas seulement une planification importante, mais il fallait qu'il y ait également une coordination continue entre le ministère de la Guerre, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Commerce, le ministère qui s'occupait des chemins de fer en Prusse, ce qui serait novateur en Prusse, où il existe une certaine tradition d'autonomie ministérielle. En juillet 1857, Frédéric Guillaume IV souffre d'une série d'AVC, le rendant incapable de mener à bien son règne. En octobre, on met en place une régence, et le frère du roi, le prince Guillaume, est nommé régent. Bien que Frédéric Guillaume IV demeure le roi, l'autorité et le pouvoir exécutif est transféré à Guillaume. C'est le début de ce qui est appelé la « Neue Ära », la nouvelle ère. Le prince Guillaume décide de se débarrasser de la clique ultra-conservatrice qui entourait son frère, même s'il avait été un opposant acharné aux idées des révolutions allemandes et demeure encore un ardent conservateur. Il limoge le cabinet conservateur du ministre-président Otto von Manteuffel et le remplace avec le prince Charles-Antoine de Hohenzollern, un membre de la branche souabe de la famille et un libéral. Lors de la cérémonie le confirmant comme régent, Guillaume prête serment à la Constitution. Il souhaite rétablir de meilleures relations avec l'Autriche et, en voyant Bismarck jeter de l'huile sur le feu qu'est la rivalité austro-prussienne, il décide de rappeler celui-ci à Berlin avant de l'envoyer en mission diplomatique à Saint-Pétersbourg, en Russie. En 1859, Guillaume doit jongler avec une crise impliquant l'Autriche, la guerre austro-piémontaise. Après la guerre de Crimée en 1854, l'Autriche s'est retrouvée isolée sur la scène européenne. Le royaume de Piémont-Sardaigne, en Italie, reconnaissant rapidement la faiblesse autrichienne, signe un traité secret avec la France en 1858. En avril 1859, la guerre éclate, entraînant de ce fait la France dans le conflit. Or que le conflit s'intensifie, l'Autriche invoque les articles 46 et 47 de l'acte du Congrès de Vienne et demande le soutien de la Confédération. En Prusse, il y a ceux qui veulent prendre une position centrée sur la Confédération, c'est-à-dire qu'ils rejetaient ou voulaient limiter toute participation allemande dans, je cite, « ce qui semble être pour plusieurs soldats et diplomates allemands comme un fiasco qui trouvait ses racines à Vienne ». Berlin essaye de gagner du temps et affirme que, puisque l'Autriche se bat non pas en tant que puissance allemande, mais en tant que puissance européenne, la Confédération n'a aucune obligation de lui venir en aide, sauf si le territoire allemand est menacé. D'une autre part, la participation active de la France dans le conflit éveille le sentiment nationaliste en Prusse et en Allemagne de l'Ouest, et on commence à avoir des doutes sur les intentions françaises en lien avec la Prusse et l'Allemagne. L'Autriche demande de plus en plus fermement le soutien de la Prusse, et Guillaume met l'armée sur le pied de guerre le 22 avril 1859. Après la défaite autrichienne à Magenta le 4 juin, il mobilise 6 corps d'armée le 14 juin et les déploie à l'ouest comme mise en garde à la France. La mobilisation prussienne se fait dans un certain chaos, puisque le ministère des Affaires étrangères réussit à convaincre Guillaume de ne pas intervenir sans le soutien de la Confédération et il fait annuler le transport des troupes. Il tente de relancer la mobilisation, mais le général von Moltke explique qu'il faudrait au minimum 11 jours pour remobiliser les trains qui, entre-temps, étaient retournés dans leur lieu de départ. Finalement, le 11 juillet, l'Autriche signe un armistice avec la France et le Piémont, mettant alors fin au conflit. La guerre dans le Piémont et l'intervention française dans le conflit démontre la vision de Napoléon III d'un nouvel empire français, je cite, « porté à la primauté en Europe par sa manipulation des forces du nationalisme et du libéralisme, ce qui est perçu en Allemagne comme une menace ». Le sentiment anti-français refait surface, mais les défaites autrichiennes à Magenta puis à Solferino ont réduit le désir de lancer une croisade contre la France. Certains voient dans les difficultés autrichiennes une opportunité pour l'Allemagne. De plus, avec le spectre d'une alliance franco-russe dans l'air, on voit apparaître des demandes pour un cadre allemand assez fort pour résister à toute attaque de l'Ouest ou de l'Est. La nouvelle vague nationaliste entraîne une résurgence des mouvements politiques Kleindeutsch et Grossdeutsch. Les nationalistes Kleindeutsch s'identifient à la cause piémontaise et perçoivent l'Autriche comme l'ennemi du progrès et de la nation allemande. En 1859, ils fondent le Nationalverein, l'Union nationale, composé majoritairement de libéraux provenant des classes moyennes, intellectuelles et commerciales. Le Nationalverein reflète, je cite, « la conviction croissante des hommes d'affaires et des intellectuels que ni les objectifs politiques, économiques ou culturels du mouvement libéral ne peuvent être atteints dans le cadre de la structure existante de la Confédération allemande. » Certains des membres du Nationalverein avaient été actifs lors de la période révolutionnaire et, à partir de leurs expériences, ils arrivent à la conclusion qu'il fallait travailler avec les autorités politiques en place et que l'Autriche s'opposait catégoriquement au projet national. Ainsi, son but premier est d'influencer le gouvernement prussien et son approche met l'accent sur la mise en place d'une autorité centrale assez puissante pour défier la France. La place centrale de la Prusse comme moteur de l'unification au sein du Nationalverein est facilité par sa place centrale dans la mémoire collective allemande depuis le règne de Frédéric le Grand. L'image de Frédéric et de la Prusse, ainsi que l'incorporation d'un protestantisme tolérant et urbain, représentait pour les libéraux un contraste avec le catholicisme autoritaire de l'époque. Du point de vue militaire, les membres du Nationalverein acceptaient l'argument que toute autorité centrale doit commander une force militaire crédible. Contrairement à beaucoup d'autres libéraux et hommes de la gauche politique, les membres du Nationalverein ne croyaient pas qu'une armée allemande efficace pourrait être improvisée. Par défaut, la Prusse est donc l'élément central de l'unification allemande pour les nationalistes de la petite Allemagne. Cependant, qu'arriverait-il si la Prusse refuse d'assumer son rôle central? Ou encore, qu'arriverait-il si la Prusse joue trop bien son rôle? Ces questions vont faire le sujet de débats au sein du mouvement, mais la plupart des nationalistes s'entendaient sur le fait que la Prusse, compte tenu de son histoire politique récente, ne possédait ni les capacités administratives, ni la cohésion interne nécessaire pour diriger efficacement une nouvelle Allemagne unie par la force. La Prusse devra donc alors se tourner vers les supportants de l'unification qui savent comment mobiliser et gouverner ce nouveau système moderne, les nationalistes et les libéraux. De son côté, l'armée prussienne sort de la désastreuse mobilisation de 1859 avec une leçon: la nécessité absolue de réguler l'administration des chemins de fer utilisés à des fins militaires. Moltke propose de créer des comités permanents composés d'officiers de l'état-major général et de fonctionnaires. Les ministères collaborent rapidement de bonne volonté, d'autant plus qu'un délai de 3 semaines a été fixé pour l'achèvement du transport ferroviaire des zones de mobilisation vers les zones de concentration en temps de guerre. Cela élimine l'incertitude qui avait rongé le ministre du Commerce lors de la mobilisation de 1859. S'ajoute à cela un nouveau système d'unités-train. Chaque bataillon d'infanterie, régiment de cavalerie et batterie d'artillerie sont assignés à un train. Et puisque le transport militaire prend la priorité lors d'une mobilisation, les troupes n'auront pas à faire de longues haltes en chemin, ce qui permet de faciliter le maintien de la discipline, qui fut un problème lors de la mobilisation de 1859 et qui sera un problème pour les Français au début de la guerre de 1870. Ce système est testé par le 5e corps d'armée en juillet 1859, et l'exercice est complété en 29 jours avec succès, ce qui marque une amélioration importante du temps de déploiement. Toutefois, il existe un revers à cette amélioration. En effet, cette nouvelle rapidité pourrait, dans le meilleur des cas, réduire la flexibilité diplomatique de la Prusse. Et dans le pire des cas, elle pourrait faire dégénérer la crise en une véritable guerre, en provoquant ou en effrayant l'adversaire, le poussant ainsi à répliquer. Pour le général von Moltke, la France représente un danger grave pour la Prusse et la Confédération, notamment à cause de son système militaire. Il envoie des officiers observer le système ferroviaire français et évaluer les publications officielles de l'armée française, notamment celles concernant la campagne en Italie. Les rapports que Moltke reçoit ne sont point rassurants. En effet, la doctrine française, d'un point de vue stratégique et tactique, met l'accent sur l'offensive. Et l'armée française à l'époque est bien adaptée à cette doctrine grâce à son grand nombre de soldats professionnels et le réseau ferroviaire français permettrait de transporter un grand nombre de troupes et de les approvisionner rapidement vers leur zone de concentration. Pour Moltke, la flexibilité opérationnelle, telle que définie traditionnellement, est un piège et une illusion face à une armée capable de faire la guerre dès que celle-ci est déclarée et face à un État qui peut déployer rapidement ses forces avec des locomotives, ce qui n'était pas encore le cas de la Prusse à l'époque. À la fin des années 1850, la population prussienne atteint les 18 millions. Cependant, le nombre annuel de conscrits recrutés demeure le même, soit 40 000. La conséquence principale est une « dépendance » entre guillemets, de l'armée prussienne pour des hommes âgés dans la fin vingtaine et dans la trentaine. Dans une armée professionnelle, comme l'armée française par exemple, les soldats plus âgés sont souvent ceux ayant la plus grande valeur du fait de leur expérience. En Prusse, les soldats plus âgés, qui sont majoritairement dans la réserve et la Landwehr, sont non seulement moins expérimentés, mais ce sont également ceux, je cite, « dont les responsabilités civiles risquaient de peser lourdement sur leur esprit et dont la vitalité diminuée n'était pas compensée par un savoir-faire accru. » Il faut alors trouver le moyen de revigorer l'armée prussienne. En 1858, il fut proposé d'affecter que les hommes de 20 à 26 ans aux formations actives et à leurs réserves. Le terme de service actif serait réduit à 2 ans, et les hommes âgés de 26 à 32 ans seraient affectés à la Landwehr pour qu'ils puissent ensuite terminer leur service militaire à l'âge de 32 ans. De plus, pour aider à recruter le plus de jeunes recrues, il fut également proposé de réduire les exigences physiques et de conscrire tous ceux qui les remplissent. Ainsi, la Landwehr deviendrait la réserve de seconde ligne de l'armée permanente et sera employée comme troupe de garnison et pour protéger les lignes de communication en temps de guerre. Le ministère de la Guerre, sous la direction de Eduard von Bonin, présente ses recommandations au prince Guillaume en février 1858. Ce dernier souhaite, depuis bien avant le début de sa régence, réformer le système militaire prussien, particulièrement la Landwehr. En juillet 1858, il reçoit un mémorandum sur l'état de l'armée prussienne en réponse aux recommandations du ministère de la Guerre, rédigé par le général Albrecht von Roon, avec qui il avait servi à Koblenz en 1854. Il commence par souligner la position internationale périlleuse de la Prusse et il recommande d'entrée de jeu de renforcer la force militaire de l'État en augmentant le nombre de conscrits. Il met l'accent sur la Landwehr, qu'il décrit comme une « aberration militaire et politique » et il critique sévèrement son efficacité opérationnelle. Selon lui, je cite, « les hommes dont les intérêts principaux sont ailleurs n'étaient pas plus susceptibles de diriger efficacement des compagnies qu'un soldat ne l'était de plaider une cause devant un tribunal ou d'enlever une tumeur. » Il insiste sur un terme de 3 ans de service dans l'armée permanente comme minimum pour former des soldats efficaces et permet également d'améliorer les compétences individuelles des soldats ainsi que la cohésion des troupes. Le prince Guillaume renvoie les deux propositions, mais il dit préférer la proposition de Rhône puisque celle-ci était beaucoup plus complète. Le ministère de la Guerre en est très irrité, car selon Bonin, le plan de Rhône ne prenait peu en compte le budget et les fonctionnaires du ministère critiquaient l'idée de doubler la taille des compagnies en temps de guerre, ce qui serait très complexe, alors que l'état-major général mettait l'accent sur la vitesse et la simplicité. Le ministère propose une nouvelle version. 3 ans de service actif, les 3 plus jeunes classes de la Landwehr, c'est-à-dire ceux qui avaient récemment terminé leur service actif, deviennent la réserve de l'armée permanente. Le nombre de bataillons en temps de paix est doublé pour pouvoir donner aux officiers de l'expérience dans la gestion de leurs unités, et les bataillons seraient composés de 800 hommes, c'est-à-dire 400 soldats actifs et 400 réservistes, au lieu de 1000. Ces petits bataillons sont alors plus faciles à commander, plus flexibles sur le plan opérationnel, et, je cite, « composé des hommes les plus jeunes et les plus aptes en Prusse ». En août 1859, Rhône fut affecté au ministère de la Guerre dans le but, je cite, « d'intégrer sa proposition avec celle du ministère dans un plan de réorganisation définitif ». Il rencontre la résistance de Bonin, mais le reste du ministère n'offre aucune résistance et collabore rapidement avec Rhône. Bonin, de plus en plus isolé au sein du ministère, démissionne le 27 novembre 1859. Les nouvelles recommandations du ministère de la Défense. les nouvelles recommandations du ministère de la Guerre incluent de supprimer la seconde ligne de la Landwehr et d'intégrer les plus jeunes cohortes à la réserve de l'armée permanente. De plus, on souhaite augmenter le nombre de conscrits de 40 000 à 65 000 par année et d'augmenter la durée du service militaire à 3 ans dans l'armée permanente, 5 ans dans la réserve et 11 ans dans la Landwehr. Le budget devra être toutefois augmenté d'à peu près 9 millions de thalers. Cette augmentation est perçue par le ministère comme un investissement unique dans les infrastructures militaires. Les parlementaires prussiens sont, cependant, pas aussi optimistes. Sur le plan économique, la Prusse a réussi à sortir de son état économique lamentable, mais cela ne paraissait pas autant pour les parlementaires et les gens à l'époque. De plus, même si la majorité des députés libéraux s'entendaient sur le fait que des réformes militaires étaient nécessaires, ils avaient néanmoins des critiques par rapport à celles proposées par le ministère de la Guerre. Selon Christopher Clark, le problème était surtout une question en lien avec le rapport entre l'armée et le Parlement, et trois aspects des réformes proposées indisposaient les libéraux. Tout d'abord, le projet de loi mènerait, selon eux, à la perte de ce qui restait de l'indépendance de la Landwehr par rapport au reste de l'armée, qu'ils considèrent comme l'incarnation de l'idéal d'une armée du peuple, alors qu'au sein de l'armée, la Landwehr est perçue comme un vestige dépassé d'un passé révolu. Le deuxième est le terme de service de 3 ans. Non seulement cette augmentation de la durée de service coûterait cher, mais ils estimaient également qu'elle viserait à inculquer, ou du moins influencer les soldats avec des idées conservatrices et militaristes. Le troisième concerne ce qui était appelé le Kommandogewalt, ou le pouvoir de commandement du roi. Guillaume soutenait que le Kommandogewalt est un attribut inaliénable de sa souveraineté, alors que les députés du Landtag craignaient la limitation de leur contrôle budgétaire et possiblement de leur pouvoir politique sur l'armée. Ainsi, voter et accorder cette augmentation de budget voudrait dire soit augmenter l'impôt ou bien accepter qu'il y aurait un déficit budgétaire, ce qui, dans les deux cas, n'était pas très convenable pour les parlementaires libéraux. Un conflit commençait alors à bouillonner sous la surface entre le Landtag et le gouvernement. Selon M. Clark, le conflit avait une dimension constitutionnelle et une dimension culturelle, toutes deux reliées l'une à l'autre. En ce qui concerne l'armée, la couronne et le Landtag avaient tous deux des rôles et des responsabilités distincts par rapport à celle-ci. Le roi commandait l'armée et se chargeait de la composition et du fonctionnement du haut commandement. Le Landtag, quant à lui, s'occupait du budget militaire. Selon le point de vue de la couronne, l'armée est liée à elle par un pacte de loyauté et est indépendante du Parlement. Selon le point de vue des députés du Landtag, cependant, les prérogatives budgétaires supposaient le droit de codéterminer, avec la couronne, la nature de l'armée, ce qui implique non seulement de contrôler les dépenses militaires, mais aussi, je cite, « de veiller à ce que l'armée soit conforme aux valeurs de la culture politique ». Toutefois, selon M. Showalter, les critiques parlementaires initiales du projet de loi étaient une façon pour le Parlement, je cite, « d'établir des limites et de présenter une position initiale de négociation avec le ministère et le prince régent ». Le soutien du comité militaire du Landtag est rapidement érodé par le ton agressif des officiers, dont Albrecht von Roon, qui témoignent devant le dit comité. Les deux camps se retranchent alors dans leurs positions, qui se durcissent de plus en plus. En réponse à cela, l'administration prussienne retire le projet de loi original et demande plutôt une subvention de 9 millions de thalers pour les 14 prochains mois. Le ministre des Finances, Erasmus von Patow, a été envoyé pour négocier avec la Chambre des représentants. Celle-ci finit par accepter d'offrir cette subvention le 15 mai 1860. La Chambre décide d'accepter car elle ne veut pas s'aliéner le régent dans une question que la majorité des députés sont plutôt en accord et parce que la Chambre des seigneurs avait appuyé le projet de loi original. Et 14 mois permettrait également aux deux camps de se calmer pour pouvoir revenir à la table des négociations avec l'esprit plus clair. Le temps est précisément ce que les extrémistes des deux camps ont saisi par les cheveux, explique M. Showalter. Les 9 millions de thalers sont immédiatement employés par Guillaume pour mettre en place les premiers éléments du projet de loi, alors que celui-ci n'a pas été accepté par le Parlement. Plusieurs officiers au sein de la Cour, dont le général Edwin von Manteuffel, insistent que le refus de la Chambre d'accepter le projet de loi original est un acte de défiance, voire un signe avant-coureur d'une révolution. De leur côté, les députés libéraux doutèrent des actions du gouvernement lorsque de nouveaux régiments furent levés par l'armée en janvier 1861, alors que le projet de loi n'avait pas été adopté. L'opinion publique et les rumeurs qui circulaient n'aidaient en rien à calmer la polarisation du débat sur la question militaire. Le 2 janvier 1861, Frédéric Guillaume IV s'éteint à l'âge de 65 ans. Le prince Guillaume décide de se faire couronner à Königsberg quelques semaines plus tard. La décision de Guillaume de se faire couronner en Prusse-Orientale plutôt qu'à Berlin est perçue comme, je cite, « un affront délibéré à la Nouvelle-Prusse des chemins de fer, des usines et des universités afin de reconnaître un héritage Junker déjà trop puissant pour le bien de la société ». Au printemps 1861, un groupe de députés libéraux se sépare du caucus et forme en juin le Parti progressiste, qui faisait campagne pour un terme de service militaire de 2 ans, l'établissement d'un État parlementaire en Prusse et l'unification de l'Allemagne sous l'auspice de la Prusse. Durant les élections de décembre 1861, le nouveau parti remporte une victoire retentissante et 109 députés sont élus au Landtag, donnant aux libéraux une majorité écrasante et réduisant la faction conservatrice à une quinzaine de députés. Pour le général Edwin von Manteuffel et ses compagnons ultra-conservateurs au sein de la Cour, le résultat de l'élection présente un énorme problème. En fait, le constitutionnalisme en général est, je cite, « un ennemi et toute mesure prise en vue de sa destruction était justifiée à leurs yeux ». Guillaume n'était pas vraiment inquiet de la nouvelle majorité libérale au sein du Landtag. Mais le général von Manteuffel réussit à le convaincre qu'il y avait là un danger grave. En mars 1862, Guillaume dissout le Landtag et lance de nouvelles élections. Résultat, un parlement encore plus libéral que le précédent et la faction conservatrice est réduite à 10 députés. Les deux camps sont alors dans une impasse. Malgré l'hostilité de Manteuffel, qui continue à demander l'abolition du Landtag, beaucoup de conservateurs au sein de la Cour commencent à avoir des doutes. Le roi et Rohn semblent vouloir faire des compromis. Guillaume ne souhaitait pas débuter son règne avec un bain de sang. Il ne souhaitait pas non plus que l'on se souvienne de lui comme le roi qui a causé une guerre civile. Du côté du Landtag, on souhaite également trouver des compromis avec le gouvernement, surtout puisque la montée des progressistes avait dérangé les vieux libéraux du Parlement. Alors que Guillaume contemplait l'abdication, Rohn le convainc de rester et de nommer Bismarck comme ministre-président en septembre 1862. Les élections de mars 1862 furent le point culminant de la crise constitutionnelle prussienne. La Chambre des représentants adopte alors un nouveau plan de match. Puisqu'elle était d'accord pour procéder à des réformes militaires et puisqu'il était impossible pour le Landtag de continuer à faire face aux dépenses qui étaient dévouées aux réformes sans une certaine forme d'accord parlementaire entre les deux chambres, la Chambre basse n'avait plus qu'à rester sur ses positions. Le gouvernement, au lieu d'abandonner les réformes ou, pire, je cite, de pousser la Prusse au bord du gouffre par un coup d'État, serait alors obligé de s'asseoir à la table des négociations et de donner au Parlement un mot à dire sur le budget militant. Le nouveau ministre des Finances, August von der Haidt, souhaite arriver à un compromis pour régler la crise qui, selon lui et Rohn, menace la sécurité et l'intégrité de la Prusse. Ainsi, le 17 septembre 1862, Rohn déclare, devant la Chambre des représentants, être prêt à concéder à un terme de service de 2 ans en échange d'un financement stable pour, je cite, « engager plus de soldats professionnels et en espérant pouvoir établir un budget militaire permanent, je cite, « basé sur une somme fixe par capita pour une armée basée sur un pourcentage fixe de la population ». Les libéraux et les progressistes modérés de la Chambre répondent positivement à l'offre du général. Toutefois, Guillaume peut en jouer par le fait que Rohn ne l'ait pas consulté avant sa déclaration, déclare, je cite, que le terme de 3 ans de service est essentiel au bien-être de l'armée et donc au bien-être de l'État. Il était même prêt à abdiquer plutôt que d'aller à l'encontre de son propre jugement. À la mi-septembre 1862, le conflit entre le Landtag et la Couronne n'était donc pas réglé. Quand la Chambre des représentants refuse d'accorder le budget militaire, le conflit se transforme en une véritable crise constitutionnelle qui menace la stabilité même du royaume. Le roi, à la demande de Rohn, est forcé de rappeler Otto von Bismarck à Berlin. Il arrive le 22 septembre et il est nommé ministre-président le lendemain. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Qu'on soit un conservateur ou un libéral, on a tous une opinion sur Bismarck. On disait de lui qu'il n'avait, je cite, « aucun talent, si ce n'est celui de contrarier ceux avec qui il cherche à négocier. » Une personne écrivant pour le magazine politique Preußische Jahrbücher explique le point de vue des libéraux. Je cite, « Le conflit apparaît alors pour ce qu'il est fondamentalement. La bataille de la bourgeoisie et de la classe moyenne contre les Junkers, alliés de l'absolutisme. » Les conservateurs, de leur côté, ne l'aimaient pas non plus, surtout à cause de son passage à Francfort. Bref, Bismarck arrive dans un climat divisé et volatile au sein des classes politiques du royaume. Bismarck se met rapidement à l'ouvrage. Il explique à Rohn qu'il faut briser l'impasse entre le Landtag et le gouvernement. Il propose, pour cela, de changer le focus des politiques prussiennes des affaires intérieures vers les affaires externes. Pour ce faire, il commence à partager son opinion concernant la place de la Prusse au sein de l'Allemagne, notamment en lien avec la question allemande. Dans un discours donné au Landtag, il reconnaît rapidement que la résolution de la question allemande pourrait dépendre de l'utilisation de la force, une position qui était partagée avec le mouvement nationaliste. Je cite ici le compte de Bismarck. Ce n'est pas par les discours et les votes à la majorité que les grandes questions de notre temps seront décidées. Cela a été la grande erreur de 1848 et 1849, mais par le fer et le sang. Durant les premiers mois de son mandat, Bismarck rencontre des succès, mais également beaucoup d'échecs. Il ne réussit pas, tout d'abord, à régler la question du budget militaire, le Landtag refusant tout compromis avec le ministre-président. En réponse, il déclare son intention de gouverner sans accord parlementaire et il déclare le 30 septembre que le roi, je cite, « pouvait régner avec des pouvoirs d'urgence ». sur la scène fédérale, il fait pression sur la Diète fédérale pour qu'elle rejette la proposition d'union douanière autrichienne et d'accepter le traité économique franco-prussien. Faute de quoi, il considérait que la Prusse n'est plus liée à la Constitution fédérale. Grâce à des pressions du milieu des affaires dans les États membres du Zollverein, l'initiative autrichienne tombe à l'eau. Sur la scène internationale, Bismarck offre à la Russie de la soutenir militairement pour réprimer la révolte dans ses territoires polonais. L'Autriche, la France et la Grande-Bretagne protestent, car ils craignent la résurgence de l'influence russe en Europe centrale et dans les Balkans. En ce qui a trait aux relations austro-prussiennes, M. Showalter note, je cite, « une fulgurante série d'initiatives qui se contredisent mutuellement ». En décembre 1862, Bismarck rencontre le nouvel ambassadeur autrichien à Berlin, le comte Alajos Karolyi. Au cours de cette rencontre, Bismarck appelle à une alliance militaire, puis propose à l'Autriche et à la Prusse de coopérer en Europe tout en acceptant d'être en désaccord sur les questions allemandes. Il demande ensuite à l'Autriche de permettre à la Prusse de dominer le nord de l'Allemagne en échange du soutien de la Prusse aux revendications des Habsbourg en Italie et dans les Balkans. Et il menace l'Autriche d'une guerre si elle poursuit sa politique actuelle à l'égard de la Confédération. Le comte Karolyi n'est pas impressionné et probablement très, très confus par Bismarck. Ses supérieurs, le ministre de l'Intérieur Anton von Schmerling et le ministre des Affaires étrangères Johann Bernhard von Reichberg vont trouver le moyen d'humilier Bismarck. À l'occasion de l'anniversaire de l'empereur d'Autriche, François Joseph, une cérémonie est prévue à la Diète fédérale à Francfort. Au cours de la cérémonie, on révélerait une proposition visant à développer l'administration de la Confédération, comprenant un parlement de 300 délégués qui déterminerait le budget, une direction de 5 membres qui servirait d'exécutif, une cour fédérale et un congrès de princes qui superviserait tous les processus. En réponse, Bismarck convainc Guillaume de ne pas se présenter à la cérémonie et il déclare que la Prusse accepterait seulement si la parité totale avec l'Autriche lui était accordée et si l'Assemblée de délégués était remplacée par un Parlement élu. Bien que Reichberg ait forcé de retirer la proposition, la réaction de Bismarck attire l'hostilité généralisée de la Diète. De plus, Reichberg rajoute de l'huile sur le feu en affirmant que l'absence de Guillaume est une insulte à l'empereur François-Joseph, qui est le président de la Diète. Il se sert également du soutien prussien à la répression en Pologne pour attiser la colère envers la Prusse. Pire encore, les libéraux en dehors de la Prusse commencent à douter des réformes militaires prussiennes, craignant qu'elles ne viennent renforcer un État réactionnaire, et les nationalistes se questionnent si une Allemagne unifiée sous les auspices prussiennes pourrait en fait devenir rien de plus qu'une Prusse en bien plus grand. Bref, les choses vont très mal pour Bismarck. Et il n'est pas encore sorti de l'auberge. Le 8 mai 1852, un traité est signé à Londres entre les grandes puissances européennes et le Danemark, le Protocole de Londres. En vertu de ce traité, les duchés de Schleswig, un fief danois, de Holstein et de Lauenburg, les deux étant des fiefs allemands, seraient gouvernés sous une union personnelle avec la couronne danoise. Puisque le roi Frédéric VII n'avait pas eu d'enfant, il fallait trouver un successeur qui pourrait également prendre le titre de duc dans les trois duchés. On choisit alors le prince Christian de Glücksbourg comme successeur. La ratification du protocole par les puissances européennes semble régler la question des duchés. Toutefois, dès le départ, les tensions entre les Allemands des duchés et la couronne danoise demeurent, principalement autour de la nomination du prince Christian. les Allemands des duchés préféraient la maison d'Augustenburg, une branche cadette germanophone de la famille royale danoise. Mais le Danemark préfère les Glücksbourg, moins allemands à leur goût. Le Holstein, durant toutes les années 1850 et au début des années 1860, va mettre des bâtons dans les roues du gouvernement danois en refusant de ratifier le protocole et toute autre révision de la constitution danoise, et ce jusqu'en 1863. Toutefois, la chose est une autre histoire. Une histoire que nous verrons dans le prochain épisode de Par le fer et le sang. Je suis Benjamin Lacombe et je vous dis à la prochaine!